chalim était compté.
Alors nous en étions à la première abbatiale cistercienne de style gothique. De style gothique.
Oui, alors c'est un terme qui a maintenant beaucoup de succès. Hein. Mais il faut savoir que pendant très longtemps, il a désigné avec un grand mépris tout ce qui était de l'ordre de l'architecture médiévale. Hein, entre l'Antiquité à la Renaissance, donc, ce style gothique était considéré comme un style barbare, un style mineur. On attribue à un historien de l'art, on pourrait l'appeler comme ça, de la Renaissance, qui s'appelle Giorgio Vasari, l'utilisation de ce terme pour la première fois. C'était au milieu du XVIe.
Mais ça a à voir avec les Goths ?
Les Goths, oui, bien sûr, les barbares.
Les barbares,
oui,
c'est
absolument,
ça ?
Oui, absolument. Oui. Alors après, on peut s'amuser à trouver des origines. Quand j'ai dit on attribue pour la première fois, vous savez, c'est un peu notre tic. C'est un peu l'esprit record du monde. Hein. C'est celui qui aura le donjon le plus haut, la cathédrale la plus haute. C'est le livre des records que nous connaissons de nos jours. Hein. C'est la même chose. Ce n'est pas la peine de s'éterniser pour savoir si Vasari est vraiment le premier à avoir utilisé ce terme. Hein. En tous les cas, il devient la mode avec Charles de Gréville lorsqu'il qualifie de romane les langues issues du latin. Hein. Et alors, c'est d'abord donc un qualificatif de la langue d'origine latine et qui est évidemment par la suite utilisée sur notre territoire. Et ensuite, ce terme sera repris pour désigner l'architecture, qui emprunte encore à l'antiquité romaine comme la langue. Et elle emprunte quoi ? La voûte en berceau, la voûte d'arête ou les arcs de décharge. Pour Viollet-le-Duc, l'art gothique, c'est l'arc brisé, la croisée des ogives et les arcs boutants qui constituent le système gothique. Viollet-le-Duc, grand architecte évidemment du XIXe siècle, qui a participé à la restauration de nombreux bâtiments, évidemment, il y en a un qu'on connaît bien, c'est certes Vézelay, mais surtout Pierrefonds, oui, pour les départements de l'Oise, et puis peut-être aussi, on en a parlé souvent, Notre-Dame de Paris. On peut faire remarquer au passage que l'arc brisé comme la croisée d'ogives était déjà utilisé dans la période romane. Donc c'est difficile de caractériser complètement le style gothique à partir de ce désolement. Moi, personnellement, je proposerais plutôt, pour le style gothique, un espace qui rompt avec le style roman, parce qu'il est organisé différemment et qu'il utilise des techniques déjà connues, mais là aussi, en privilégiant, je dirais, l'économie, la possibilité d'extension, d'élever. De la même façon, tout à l'heure, je parlais des records. On ne va pas se poser la question pendant des siècles à se dire quelle est la première cathédrale gothique. Est-ce que c'est Sens ? Est-ce que c'est Noyon ? On sait aussi l'importance de Suger, le conseiller, l'abbé de Saint-Denis, le conseiller de Louis VI et de Louis VII, qui lui s'est attaché pour sa nef, enfin pour son abside d'abord et sa nef, ce que disait Émile Malle, a proposé une lumière tout à fait extraordinaire, à la fois grâce aux vitraux colorés, mais aussi à l'ensemble des objets qui sont présentés aux croyants, qui pénètrent jusqu'au déambulatoire. Pour ma part, moi j'ai été très influencé par quelqu'un qui est un petit peu passé à travers les grilles du savoir. J'ai eu l'occasion de discuter avec lui, il s'appelait, hélas, Roland Bechmann. C'est une personnalité assez atypique, c'est à la fois un grand historien, c'est un architecte, c'est un écologiste, mais un architecte qui a travaillé de nombreuses années dans des pays en voie de développement. C'est-à-dire dans des pays, je pense à l'Afrique, qui se retrouvent avec une absence de machines, d'énergie, un petit peu de ce que nous avons connu dans notre région, nous, ici au Moyen-Âge. Donc il a pu, lui, en direct en quelque sorte, puisqu'il était le maître de ses travaux, faire des expérimentations et montrer l'utilisation des échafaudages, etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais quand même vous signaler un ouvrage qui est tout à fait passionnant de Roland Bechmann, ça s'appelle « Les racines des cathédrales ». Et puis par ailleurs, je tiens à signaler que c'est peut-être le plus grand spécialiste, au moins pendant de nombreuses années, d'un architecte qui vient des Hauts-de-France, qui s'appelle Villard de Honnecourt. Alors Villard de Honnecourt, il habitait pas loin d'une abbaye.
Ah, l'abbaye de Valloire, c'est
voilà,
dont il faut visiter les magnifiques jardins.
Vous avez parfaitement raison. Et Villard de Honnecourt, c'est vraiment le premier architecte qui nous ait laissé un carnet, une signature en quelque sorte. Et c'est une mine, évidemment, pour les gens qui s'intéressent à l'architecture gothique. Pour Roland Bechmann, le gothique présente surtout une nouvelle organisation du chantier. Premier bouleversement, ça vient de l'exploitation des carrières. Jusqu'à présent, on exploite les carrières en surface. Donc, on dégage des premières couches, évidemment, qui n'ont pas d'intérêt. Et on traîne les gros blocs qu'on en extrait toujours en surface jusqu'au chantier. Et la première évolution, ça va être donc l'introduction des carrières souterraines. Parce que dans les carrières, je les appelais aériennes pour plus de facilité, le travail ne durait pas si longtemps que ça. On commençait à Pâques et on fermait à Toussaint. On recouvrait le tout de paille, etc., pour éviter la gelée. Donc c'est un chantier qui est relativement court dans le temps et puis surtout qui demande le transport de masses de pierres extrêmement lourdes avec des grandes difficultés. Je sais bien qu'on avait des bœufs, des chars, mais en plus ça coûte cher parce qu'il fallait s'arrêter au péage. Autrement dit, on pense, c'est une approximation, hein, que le prix de la pierre, si on considérait évidemment le transport, etc., le prix de la pierre c'était à 80% le prix des péages. Alors vous voyez, bon, oui, on peut encore augmenter les péages de l'autoroute. Je plaisante, bien sûr. La deuxième révolution, on le verra, c'est la... Alors non, je vais peut-être un peu vite, parce que le fait de passer aux carrières souterraines, eh bien, premier avantage, c'est qu'on peut les exploiter toute l'année. Et deuxième chose, c'est qu'à partir du moment où on peut travailler toute l'année, on peut intervenir directement sur les bancs de pierre et sculpter sur place les différents moellons, hein, ou les parpaings, puisque c'est ainsi qu'on nomme les pierres dont les faces sont parallèles. Donc, à partir de là, c'est une révolution, parce qu'il faut tout prévoir. Donc, il nous faut un architecte. Chaque pierre va avoir sa place dans le nouveau bâti. Elle aura d'ailleurs une taille beaucoup plus petite, évidemment, que les grosses pierres qu'on traînait auparavant. Et elle sera marquée, non seulement, bien sûr, du tailleur de pierre qui met son chiffre, il faut bien être payé de temps en temps, hein, mais aussi par des marques de positionnement qui indique la place de la pierre dans le grand Lego que constitue maintenant le chantier cathédral. Donc, tout cela va modifier, et Bechmann insiste bien là-dessus, va modifier le chantier gothique. Un architecte, bien sûr. Il faudra des plans. Il faudra des gabarits. Il faudra des mesures. D'ailleurs, l'architecte est souvent représenté avec sa canne d'architecte sur laquelle les mesures ont été tracées. Je n'ai pas le temps de vous parler des différentes mesures médiévales, oui, mais sachez que cette canne s'appelle une pige. Donc, on mesure avec une pige, en pied, paume, coudé, etc. Et puisque c'est une pige, si quelqu'un a bien mesuré, on va lui demander « t'as bien pigé ?» Et un pigeon, c'est pas l'animal que nous connaissons. Un pigeon, c'est celui qui prend les mesures, une espèce d'arpenteur, en quelque sorte, sur le chantier cathédral.
Aucun rapport avec l'oiseau, alors.
Aucun rapport avec l'oiseau, mais bien sûr avec la pige. Mmh. La deuxième révolution, qui ne va pas contre ce qu'on en dit habituellement du bâti gothique, c'est-à-dire la croisée d'ogives. Et mais Bechmann insiste sur le fait que la croisée d'ogives, c'est une double révolution. D'une part, ça va permettre évidemment de donner de la lumière à l'intérieur du bâtiment, mais surtout, ça va permettre de supprimer les lourds échafaudages. Vous savez, quand on construisait une voûte en plein cintre, il fallait, pour supporter cette voûte au moment de la construction, avoir des étais de bois, des cintres de bois, en grande quantité pour supporter le poids de la voûte. Hein, ça fait un peu comme le tunnel du métro, mais à l'extérieur, là. Hein. Or, on est au début du XIIIe, et c'est une véritable révolution démographique. Au début du XIIIe, la population augmente, on a besoin de plus en plus de bois d'œuvre, etc. Et je crois l'avoir déjà dit, Sugère, pour sa basilique, est obligé d'aller jusqu'en vallée de Chevreuse pour trouver des poutres de taille suffisante pour le bâti de l'abbaye Saint-Denis. Autrement dit, la croisée d'ogives, c'est un échafaudage de pierre. On n'a plus besoin, pour construire une croisée d'ogives, d'avoir un échafaudage qui part du sol jusqu'en haut, hein, jusqu'à la clé qui va réunir les arcs. Mais il suffira, à ce moment-là, de descendre de la toiture, de la charpente. N'oubliez pas qu'on construit la charpente avant la voûte, ah oui, aussi. Hein. Nous, on ne fait pas tout à fait la même chose. On met hors d'eau, puis après, on se met à faire l'aménagement intérieur. Donc, on peut très bien descendre des échafaudages, des claies légères, pour permettre aux ouvriers d'intervenir, mais aussi, on peut caser par des échafaudages beaucoup plus légers qui s'appuient sur le haut des colonnes, hein, avec des systèmes d'ailleurs assez astucieux qu'on a développés tout au long de ces constructions. En général, ces demi-cintres ou arcs brisés sont posés sur des sacs de sable. Et quand on veut enlever l'échafaudage, si on tire comme ça, on risque de partir avec les pierres qui sont au-dessus. Et donc l'astuce, c'était de crever les sacs de sable sur lesquels reposait l'échafaudage. Et comme ça, l'échafaudage descendait naturellement, se désolidarisait de la voûte de pierre. On évitait ainsi de la prendre sur la figure, ce qui était quand même une nécessité. Voilà, donc cette révolution, effectivement, a marqué profondément la construction, et chacun le sait parfaitement. Les carrières, on les a retrouvées. On a retrouvé à peu près l'endroit où on extrayait la pierre en plein ciel, je dirais. Et on a retrouvé aussi les carrières où on extrayait la pierre en sous-sol. Ces carrières, on les a visitées. On a pu comparer la nature du calcaire avec celle du bâtiment que nous connaissons encore, enfin ce qu'il en reste. Et ça nous a permis de pouvoir authentifier en quelque sorte le lieu de l'extraction. Peut-être pour terminer, la modélisation. Ce qui me surprend aussi très souvent, c'est le fait qu'on se met à modéliser le bâti comme on le fait quand on construit une automobile. C'est-à-dire qu'on a des modules qu'on va ensuite assembler sur place. Et avec 6 modules, on peut reconstruire à peu près la plupart des piles fortes de châssis. Une espèce de standardisation aussi, en même temps, qui s'installe. Hein. Ceci dit, il ne faut pas croire pour autant qu'on laisse les architectes faire ce qu'ils veulent. Hein. C'est vrai au Moyen-Âge, mais c'est vrai plus tard également. Il ne faut pas oublier les exigences des signes de la liturgie, et entre autres la lumière. Dans les monastères, c'est une course parfois, évidemment, à la hauteur, à la taille, mais c'est surtout une course à la lumière. Hein. Vous connaissez l'évangile de Jean. Hein. Moi, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Il aura la lumière de la vie. Et donc, les moines sont très préoccupés par les ouvertures qui permettent à la lumière de pénétrer jusque dans l'enceinte de l'église elle-même. Il serait intéressant de modéliser en 3D l'église de Chali pour voir comment s'opère le voyage de la lumière vers l'intérieur. D'ailleurs, si vous regardez les baies, vous verrez qu'il y a un appui très long, hein, qui permet de guider, comme on ferait pour un projecteur, la lumière vers un lieu bien déterminé. Un peu comme sur les tableaux flamands, où on voit ces fenêtres d'où coule la lumière vers le personnage qui intéresse le peintre. Voilà, si vous voulez, très rapidement, une petite présentation du bâti gothique à travers l'expérience de Chali. Mais bientôt, nous allons passer à un morceau plus consistant quant à l'histoire nationale, puisqu'on va évoquer rapidement deux rois qui vont marquer notre histoire locale, et Chali par la même occasion, les moines de Chali, les évêques de Senlis. Il s'agit des rois Louis VII et de Philippe Auguste, Philippe II Auguste.
Thank you.
oui, maintenant, nous allons évoquer deux rois importants pour nous, ici, dans notre région. Louis VII le Jeune. Rappelez-vous, le mariage avait été, on va dire, installé à Béthisy-Saint-Pierre. Hein. Je vous rappelle rapidement, Louis VI arrive à Béthisy dans son château, là où il va mourir d'ailleurs. Et quelque temps avant, il avait reçu les émissaires du duc d'Aquitaine qui demandaient donc à Louis VI la main de son fils pour son héritière, Aliénor, celle qu'on appellera à la suite Aliénor d'Aquitaine. Louis VII, on le sait aussi, on l'a vu ensemble, n'est-ce pas, n'était pas prévu en quelque sorte pour régner. Tant qu'il ne règne pas, d'ailleurs, on l'appelle Louis VII le Jeune. Hein. Mm-hmm. Puis ensuite, Louis VII. Caractère assez curieux. On en a fait dans l'histoire de France une espèce de personnage un petit peu veule. C'est pas du tout ça. Je pense que c'est un homme qui était très pieux. Il a été élevé véritablement dans la religion, comme le sera d'ailleurs Saint-Louis plus tard. Et il répond tout de suite à l'appel de Bernard de Clairvaux quand celui-ci lance une nouvelle croisade entre 1147 et 1149. Alors il part d'ailleurs à la croisade avec sa nouvelle épouse, donc ils partent toutes les deux. Hein. On est toujours étonné, mais on part en famille en quelque sorte. Il n'est pas étonnant donc de partir avec son épouse qui s'appelle Aliénor d'Aquitaine, maintenant vous le savez. Mais bon, les choses se gâtent assez rapidement et peut-être pendant la croisade, on ne sait pas trop, enfin les choses... On va pas faire l'agence matrimoniale. Hein. Les choses se gâtent et finalement, le divorce va être prononcé. Mais on va voir que Aliénor d'Aquitaine va tout simplement épouser rapidement l'ennemi, le plus bel ennemi, si j'ose dire, de Louis VII, c'est Henri II d'Angleterre. Hein. Alors, c'est vraiment l'ennemi. Hein. Louis VII essaye d'affaiblir à chaque fois qu'il le peut le roi d'Angleterre, le roi Henri II, donc. Il va l'affaiblir donc en défendant l'archevêque de Canterbury, Thomas Becket, hein, dont on reparlera tout à l'heure. Il va essayer de l'affaiblir en aidant les fils qui se révoltent contre le père. Hein. Mais lui-même a pas mal de difficultés parce qu'il a des problèmes avec le comte de Flandre, avec la famille du comte de Champagne, enfin, etc. Donc rappelons quand même que cet Henri II, qui était le comte d'Anjou, avait épousé donc Aliénor d'Aquitaine en 52, hein, deux mois après qu'elle eut divorcé du roi de France. Et il se fera couronner à Canterbury en 1151 sous le nom d'Henri II Plantagenet. Ben, Plantagenet, c'est un nom bien français. Alors, par la suite, Thomas Becket, l'archevêque de Canterbury.
Mais quel rapport avec Crépy, c'est pas...
Eh oui, tout à fait. On peut parler de Thomas Becket, puisque vous évoquez, je pense, l'église Saint-Thomas.
Voilà.
Voilà. Alors cet archevêque qui était un ami d'Henri II, pour des raisons que je ne connais pas, on ne peut pas tout connaître, loin s'en faut. On peut connaître surtout ce qu'on ne connaît pas, c'est-à-dire beaucoup de choses. L'archevêque de Canterbury avait placé les intérêts de son église avant ceux de son ancien ami, là, on peut le dire, le roi d'Angleterre. Comme les choses se gâtent, il pense que ça serait intéressant de mettre la Manche entre le roi et lui-même, donc il traverse la Manche, il demande asile, eh bien, à quelqu'un qu'on connaît, hein, à l'abbé de Pontigny, qui est l'abbé maire d'Échelle, pour éviter donc d'être persécuté par son roi. Et il ne rentrera d'ailleurs en Angleterre que vers quelques années plus tard, donc vers 1170. Et là, les choses se passent mal, puisqu'il est assassiné dans sa cathédrale, par quatre chevaliers proches d'Henri II. Alors, est-ce que c'est Henri II qui a passé la commande ? Non, pas forcément. Mais en tous les cas, je pense que ces chevaliers qui ont trucidé l'évêque dans sa cathédrale voulaient complaire en quelque sorte à leur maître. La tradition raconte que Thomas Becket fut reçu à Crépy-en-Valois en 69, donc juste avant d'être assassiné, évidemment, parce qu'après c'était difficile. En 69, donc, c'est Philippe d'Alsace, donc le comte de Valois, qui l'a reçu en son château. Ça, c'est la tradition. Moi, je n'ai pas trouvé de texte tout à fait pertinent pour l'affirmer, mais enfin, je vous livre la légende. Et à la question de savoir à quel saint serait dédiée la nouvelle église que Philippe, le comte de Vermandois et du Valois, venait de construire, il aurait répondu, eh bien, cette église va être dédiée à celui qui a été ou à celui qui sera, car il y aura encore bien des martyrs dans le monde. Et on en a conclu que Philippe d'Alsace, comte de Valois, voulait lui consacrer la collégiale de Crépy-en-Valois et surtout son église nommée, bien sûr, Saint-Thomas. Donc, pour répondre à votre question, oui, il y a un rapport direct, bien sûr, entre l'histoire de Crépy-en-Valois, en quelque sorte, et l'évêque de Canterbury. Le roi suivant, parce que je suis obligé un peu d'accélérer dans la chronologie des royales, c'est Philippe II. Philippe II, on l'appelle Philippe II Dieudonné, on verra pourquoi tout à l'heure. Auguste beaucoup plus tard, hein, c'est un surnom qui lui sera donné beaucoup plus tard. Il naît à Gonesse, donc pas loin d'ici, donc en 165. Donc c'est le fils de Louis VII et d'Adèle de Champagne. Et comme Louis VII n'avait pas d'enfant et qu'il attendait depuis fort longtemps d'avoir un héritier, enfin d'Adèle de Champagne, un garçon lui fut donné. Et voilà pourquoi il l'appellera Philippe Dieudonné pendant très longtemps. Voilà. Alors, il y a tout un tas de légendes qui s'attachent à la naissance de ce jeune héritier mâle tant attendu. On dit qu'il a eu un jour un songe prémonitoire qui rappelle la légende du Graal. Enfin, bon, c'était une espèce de nouveau Christ, un nouveau gala dans tous les cas. Et puis, il demande l'avis de l'ermite Bernard de Vincennes. C'est une espèce d'homme prédicateur, en quelque sorte. C'était l'ancien prieur de Grandmont. Hein, de l'ordre de Grandmont. Il dit « Oh, ce fils rejettera dans l'ombre et l'empereur d'Allemagne et le roi d'Angleterre. » Alors, avec une telle prédiction, vous doutez bien que le père était tout à fait ravi. Et il fit annoncer la nouvelle dans tout Paris. Les cloches sonnèrent, on célébra l'Eucharistie, des actions de grâce, etc. Mais n'oublions pas qu'il faut absolument que le futur roi soit couronné, soit sacré, pardon, bien avant la mort de son père. Ça, c'est une longue tradition que d'ailleurs Philippe ne va pas respecter, mais ça, c'est autre chose. Donc, en 1179, on décide du sacre de Philippe Dieudonné. Évidemment, on se rend à Reims, mais auparavant, fait étape à Compiègne. Alors, à Compiègne, je ne sais pas s'il s'ennuie, mais il obtient l'autorisation d'aller chasser en forêt. On dit qu'il a sué un sanglier et qu'il s'emboucle dans un sentier obscur et se perd. Il ne pouvait pas ignorer, évidemment, les légendes qui se multipliaient dans la forêt. Hein, parce que ça c'est ce qu'on appelle un topos, c'est-à-dire des histoires qu'on se raconte sur les méfaits ou sur la sorcellerie qui est liée à la forêt. Et dans la forêt, Philippe rencontre un charbonnier qui le ramène finalement, je ne sais pas sur les détails, dans le bon chemin. Mais curieusement, le futur roi tombe malade et demeure muet. Aucune invocation ne réussit à le sortir de son mutisme. Alors, et on va retrouver encore une fois notre évêque, son père donc, très pieux, malgré sa faiblesse, décide de se rendre à Canterbury pour implorer le Saint-Évêque, car notre Thomas Becket rapidement a été canonisé, et il va donc demander à ce Saint-Évêque de rétablir la santé de son fils unique, Philippe. Et sans doute que ses supplications ont été entendues, puisque Philippe va recouvrer la santé. En tous les cas, il gardera probablement un caractère assez anxieux à la suite de cette aventure. Finalement, le sacre va avoir lieu à la Toussaint et il devient Philippe II de France, avant de devenir, je le disais tout à l'heure, Philippe Auguste. Pourquoi Auguste ? Bon, c'est un terme qu'on peut rapprocher du latin augere, qui veut dire accroître. C'est Philippe, celui qui accroît le royaume. Voilà pourquoi il est Auguste, celui qui augmente ses états. Car le domaine royal ne représente encore qu'un territoire très réduit. Hein. De part et d'autre, de la Seine et de la Loire, de Senlis à Bourges, hein, avec des étranglements et des entraves. Son domaine est encerclé par de vastes comtés. Hein, on n'a pas la carte sous les yeux, mais faites le tour avec moi. Les comtés de Flandre, de Lescaut, qui vont jusqu'à Beauvais, le comté de Champagne, le duché de Normandie, le comté de Blois, de Bourgogne. Sans parler de la menace des Plantagenets, hein, du roi d'Angleterre, et qui est de loin la menace la plus sérieuse, évidemment. Et Philippe Auguste va être très, très astucieux, va essayer toujours de trouver une balance, par exemple, entre la Champagne, le comte de Champagne et celui de Flandre. Donc s'appuyant d'un côté pour contrecarrer les prétentions de l'autre, etc. Où il y a quand même, évidemment, je pense à la Champagne, il ne faut pas l'oublier, Adèle de Champagne, sa mère. Mais sa mère, elle ne lui fera pas forcément de cadeau, en quelque sorte, lorsqu'elle veut, évidemment, obtenir des décisions propres, évidemment, à ses convictions. Alors, un premier mariage va avoir lieu entre Philippe Auguste et Isabelle de Hainaut. Hein, Isabelle de Hainaut, le comte de Flandre, on est là dans cette mouvance. Et finalement, le comte de Flandre va lui, que nous connaissons, donc va lui proposer sa nièce en mariage. Le mariage a lieu dans la plus grande discrétion, parce qu'on est avec le comte de Flandre, donc les Champenois ne sont pas du tout contents. Donc on fait ça un petit peu en douce. Et finalement, ce mariage se fait sans pour autant que les choses soient très claires. Pourquoi elles ne sont pas claires? Tout simplement parce que si Isabelle de Hainaut est devenue reine de France, c'est parce que Philippe, derrière, a l'intention de bénéficier de l'appui du comte de Flandre. Hein. Et puis, comme les choses ne viennent pas, eh bien, il se dit, histoire de faire un peu, c'est un mot terrible, un peu de chantage, ouais, pourquoi pas, il va dire, ben, si vous voulez pas, vous, le comte de Champagne, de Flandre, excusez-moi, venir à mon aide, eh bien, je vais répudier votre nièce. Hein. Donc, on est presque à la répudiation officielle. Et là, je vais vous laisser ce petit texte qui a été écrit par M. Bordenave, qui est un bon spécialiste du règne de Philippe Auguste.
En mars 1184, le jour où la sentence de répudiation d'Isabelle devait être prononcée à Senlis, la petite reine de 14 ans quitta le palais de Senlis en chemise, pieds nus, un cierge à la main. Éclopés et mendiants accoururent, l'entourèrent, lui firent une escorte. De pauvres gens sortirent de leur maison et de leurs échoppes, se joignirent au groupe qui devint une foule vociférant contre les ennemis de la reine, implorant sa grâce, priant et pleurant. Cette masse haillonneuse et glapissante marcha vers le palais de Senlis, où s'étaient réunis les juges laïcs et religieux. Elle réclama le roi à grands cris. Il daigna paraître, affrontant ces miséreux. On le vit s'avancer vers Isabelle, lui prendre la main. Il se fit un brusque silence et l'on entendit « Dame, je veux que tous sachent que vous ne partez pas de moi par votre méfait, mais seulement parce qu'il me semble que je puisse avoir lignée de vous. Et s'il y a baron en mon royaume que vous vouliez avoir pour seigneur, dites-le-moi et vous l'aurez quoi qu'il m'en coûte. » « Sire, répondit Isabelle, à Dieu ne plaise comme mortel entre dans le lit où vous avez dormi. » On les acclama. Les humbles avaient le cœur près des lèvres. Un beau geste, une noble parole les apaisait. Bref, Philippe Auguste et Isabelle reprirent la vie commune. Un peu d'amour, un intérêt marqué pour la dot, mais surtout, il fallait empêcher que Philippe d'Alsace ne rompe avec lui et obliger Baudouin de Hainaut à rester dans le camp du roi de France.
Voilà. Cette belle histoire s'est donc déroulée par Senlis, hein, donc devant le château de Senlis, qui, comme vous le savez, se trouve à l'ouest de la cathédrale actuelle. On voit encore, bien sûr, les quelques restes des murailles.